I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Voilà, c'est l'Amérique et vous qui commence, et dans l'Amérique et vous, ce soir, on parle du 116e congrès américain qui a commencé sa session ce jeudi avec de nouvelles couleurs. Ce congrès comprend un nombre record de femmes et d'élus issus de minorités dans les rangs des démocrates notamment, et cela concerne surtout la Chambre des représentants. On peut citer de premières élues amérindiennes, de musulmanes, dont une première ancienne réfugiée venant d'un camp de réfugiés au Kenya. Bref, ce nouveau congrès enregistre les plus grands groupes d'élus noirs et hispaniques de l'histoire américaine. La démocrate Nancy Pelosi, à la tête de la Chambre des représentants, a promis de protéger la classe moyenne, sans oublier les Dreamers, les immigrants mineurs entrés illégalement sur le territoire américain. Madame Pelosi est la première et deuxième femme de l'histoire américaine à diriger la Chambre des représentants. Elle a défié le président Donald Trump dès son retour historique en faisant approuver par sa nouvelle majorité des mesures qui visent à mettre fin au shutdown qui paralyse une partie des administrations américaines. Pensez-vous que l'actuel congrès pourra être plus efficace que le congrès précédent? C'est la question qui vous est soumise. On va essayer d'explorer d'autres questions. Nous avons un invité en ligne déjà, c'est l'analyste politique Emilio Viano. Emilio, bonsoir. Emilio, est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nous aurons également Marc Tappé. Il est professeur de sciences politiques dans un collège à New York. On ne l'a pas encore en ligne. On aura Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique. Nous avons eu un entretien avec lui il y a un instant. Messieurs Viano, il y a maintenant la question du shutdown qui n'est pas encore levée. Vous avez suivi peut-être la chef de file démocrate et qui est à la tête de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui a levé l'équivoque. Pas question de négocier le financement du mur voulu par le président Trump. Tant que le gouvernement est fermé, on n'est pas dans l'impasse, mais c'est un blocage total.
Oui, c'est vrai. Et les démocrates à la Chambre des représentants aux États-Unis ont pris le pouvoir hier. Ils vont au bras de fer avec le président. À la tête de cette opposition se trouve Nancy Pelosi, qui a été réélue présidente de la Chambre des députés, et qui hier a dit il n'y aura pas de mur, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun, pas d'argent, peut-être un dollar à la fin, elle a dit, quand on a proposé de faire ça. C'est elle qui refuse les 5 milliards et 60 000 dollars que le président réclame pour construire cette mur avec le Mexique. Et comme nous savons, la dernière réunion qui a eu lieu il y a seulement 2 jours, mercredi au soir, fut un échec. Et Trump poursuit donc le blocage des administrations. Il a dit que le shutdown durera autant de temps qu'il le faudra. Naturellement, pour Nancy Pelosi n'est pas si facile, parce que parmi les démocrates, il y a ce qu'on peut appeler les progressistes et les plus conservateurs, et elle doit maintenant trouver une façon d'utiliser la force des démocrates dans la Chambre des députés, mais aussi de contrôler la possible division entre eux. Et ça sera naturellement un travail très important pour elle qui a, comme nous savons, beaucoup d'expérience dans ce sens.
Et à qui va profiter cette stratégie? Parce qu'il y a des victimes, des fonctionnaires de l'État, du gouvernement fédéral, qui risquent de ne pas être payés si le shutdown n'est pas mis fin.
Oui, vous avez raison. Un quart du gouvernement fédéral est sans argent. C'est 800 000 fonctionnaires qui ne sont pas payés dans ce moment. Et les démocrates, naturellement, insistent qu'ils veulent passer et approuver dans ce moment un bilan qui permet de payer les fonctionnaires, de retourner à la normalité. Quand on continuera les négociations avec Trump sur une politique peut-être compréhensive sur le sujet de l'immigration. Alors, les démocrates hier à la Chambre des députés ont approuvé un projet de loi qui permet le gouvernement de se réouvrir, de payer les fonctionnaires, et c'est la même loi que le Sénat avait déjà approuvée avant la fin de décembre. Mais il veut naturellement projeter une image d'être raisonnable, de savoir gouverner, de prendre les intérêts des fonctionnaires et du peuple américain premièrement en compte, et de continuer cette conversation avec le président, mais avec le but de développer, approuver une loi compréhensible, qui ne soit pas seulement un mur, qui ne soit pas seulement plus d'agents de sécurité, qu'elle soit une loi de réforme. Pour le président, naturellement, il s'adresse à sa base d'électeurs avec le mur. Et il utilise également un argument de poids. Il dit hier que la somme demandée est l'équivalent de ce que dépense le pays en une journée au Afghanistan. C'est-à-dire que le président utilise cette mur pour donner et continuer à donner une raison à ceux qui ont voté pour lui, d'avoir confiance en lui, qui maintient ses promesses, qu'il combatte naturellement l'immigration illégale que Trump a décrit comme une source de criminalité sans fin dans ce pays. Et même le président a créé un ennemi en commun, c'est-à-dire l'immigrant mexicain, l'immigrant de l'Amérique centrale, de Guatemala, El Salvador, Honduras, etc., qui sont ici pour prendre votre emploi, pour demander l'assistance de l'État, pour vivre et manger, qu'ils sont des violeurs, qu'ils vont vous prendre l'emploi. C'est-à-dire que c'est une technique que Trump utilise pour maintenir sa base, parce qu'il pense déjà très, très, très bien à sa réélection l'année prochaine. Mais la campagne électorale a déjà commencé. Et le mur, c'est le commencement. C'est pour ça qu'auparavant, comme vous savez, le président avait démontré sa disponibilité d'accepter la loi que le Sénat avait approuvée et la Chambre des députés était prête à considérer, qu'il n'y avait pas d'inclusion d'argent pour le mur pour continuer le fonctionnement du gouvernement jusqu'au 8 de février. Mais il y a eu de journalistes particulièrement et d'analystes très, très conservateurs qui l'ont critiqué beaucoup par radio, par télévision, particulièrement sur Fox, cette chaîne très conservatrice.
Et il a changé d'avis.
Le président a changé d'opinion.
Gardez la ligne, Monsieur Viadon, nous avons un auditeur en ligne. C'est Hassan Omar. Hassan, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à votre invité et bonsoir aux auditeurs de la VOA.
Vous dites que le congrès actuel aura plus d'intensité et la démocratie prendra son sens. Comment?
Oui, tout à fait, parce que nous avons qu'avant, il y avait une domination du Sénat et une domination dans le parlementaire et dans les parlements. Et donc, dans la Chambre, il y avait de plus en plus de républicains et souvent, ils bloquaient la situation. Lorsque nous avons des démocrates qui prennent de plus en plus d'ampleur et surtout les minorités qui arrivent dans la Chambre, nous aurons de la démocratie qui devient de plus en plus effleurie dans l'Amérique d'aujourd'hui. Donc c'est une situation très importante et ça reflète déjà qu'il y a une grimace, si on peut dire ainsi, une grimace politique et donc un challenge politique et qui est à l'horizon de la présidentielle qui va venir très bientôt. Mais la question que j'aimerais poser à votre invité, c'est cette situation entre démocrates et républicains, est-ce qu'elle aura des répercussions entre des programmes américains ou des projets en vue pour le continent africain?
Gardez la ligne, Hassan Omar. On va donner l'occasion à M. Viano de vous répondre. M. Viano, vous avez entendu la question de notre auditeur?
Oui, oui. On ne peut pas faire une prédiction certaine, mais je pense qu'il n'y aura pas de conséquences dans ce sens. C'est pratiquement déjà un événement de campagne. C'est-à-dire que le mur est devenu un symbole. Que les démocrates,
l'auditeur veut savoir si le gouvernement reste fermé, qu'il n'y aura pas d'impact négatif sur, par exemple, les projets qui sont financés en Afrique.
Comme je dis, je pense qu'il n'y a pas aucune connexion. Je pense qu'il n'y a pas aucune répercussion parce que c'était un événement de campagne à l'intérieur du pays.
Merci. Gardez la ligne. Monsieur Viano, Hassan Omar, vous avez entendu qu'il n'y aura pas d'impact. Nous avons Youssouf en ligne. Youssouf, bonsoir.
Oui, bonsoir à la VOA.
Vous dites que ce congrès a plus d'intérêt à réussir et vous dites également qu'il reflète l'image des États-Unis d'Amérique que le monde voudrait voir.
Exactement. Vous savez que ce congrès qui était plus dominé par les républicains qui étaient naturellement très très fermés, qui prenaient les États-Unis d'Amérique très très solitaires, vous voyez, alors qu'en réalité les États-Unis d'Amérique font partie en tout cas de ces pays du monde qui sont exceptionnels en termes de mélange de gens, de mélange de couleurs dans leur pays. Vous voyez, il y a des Noirs et des Blancs qui cohabitent, donc c'est en réalité un de ces pays-là où particulièrement, une fois qu'elle a une grande puissance, ces pays-là qui devraient pouvoir pratiquer de la solidarité en termes de race, en termes de genre, en termes, j'en suis plusieurs terrains d'ailleurs, vous voyez, donc ce congrès qui a été installé, qui veut promouvoir des États-Unis plus solidaires en parlant de la sociabilité avec les migrants, en parlant d'un certain nombre de points qui évoquent de la philanthropie, en tout cas que la dame veut promouvoir, vous voyez, c'est en réalité cette image que les gens ont toujours réclamée depuis que le président Trump est venu, cette image, c'est le contraire, en tout cas le contraire de cette image, c'est contre elle, les gens se sont mobilisés quand le président Trump avait commencé par prendre cette décision, particulièrement celle qui concerne la construction du mur avec la frontière du Mexique, vous voyez, en réalité, donc ce congrès veut en quelque sorte venir rétablir, veut corriger, veut soigner en tout cas cette plaie que, en tout cas, j'espère que je n'exagère pas, cette plaie que le président Trump en quelque sorte a créée aux yeux du monde, aux yeux de l'Afrique, aux yeux en tout cas des États-Unis aussi, parce qu'à l'interne aussi les gens ne sont pas d'accord, les États-Unis aussi qui dit que les États-Unis doivent rester elles-mêmes. C'est vrai que c'est une logique républicaine, c'est les républicains qui sont comme cela, mais en réalité, une fois que les États-Unis sont qu'elles sont, c'est que naturellement, on doit pouvoir prôner une sorte de sociabilité. La philanthropie doit prendre le dessus parce que nous savons dans quel état nous sommes. Vous voyez, nous savons dans quel état nous sommes. Parce qu'on doit naturellement le faire ainsi pour que ça marche très bien. Hein. C'est ce que je pense de la chose. Hein.
Merci, Youssouf. Nous allons maintenant écouter Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique.
Oh, je crois que maintenant le président Trump est obligé de chercher des compromis. Avant, il contrôlait les deux chambres. Maintenant, il doit négocier avec les démocrates. Donc, je crois qu'il va trouver un moyen de chercher des arrangements.
Pour l'instant, il dit que si on ne lui donne pas de l'argent pour construire le mur entre les États-Unis et le Mexique, il ne peut accepter aucun compromis.
Oh, ça, c'est ce qu'il dit, mais il change d'avis assez souvent. Et maintenant, ça pèse beaucoup sur les gens partout dans les États-Unis. Les petits commerçants souffrent parce que les gens n'achètent pas, les fonctionnaires n'achètent pas. Donc, je crois qu'il va... Il va accepter un compromis sans le mur, sans le mur.
Monsieur Cohen, il y a plus de femmes dans ce congrès, c'est historique aux États-Unis. Qu'est-ce qui aurait stimulé ce changement?
Oh, je crois que c'est la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes gens qui votent maintenant, qui ont dépassé 18 ans. Et ils favorisent les femmes, ils favorisent les jeunes. C'est un changement de génération qui se passe maintenant.
Maintenant, il y a deux agendas qui s'affrontent. D'un côté, l'agenda des Républicains. Et hier, jeudi, Nancy Pelosi a aussi donné le ton sur son agenda. Comment les deux agendas vont être conciliés?
Oh, c'est difficile. Il y aura des négociations très difficiles qui va venir, mais je crois qu'ils vont... Ils sont obligés, ils sont condamnés à faire des compromis. Donc, je suis optimiste.
Est-ce que vous pensez que le Congrès actuel pourra être efficace que le Congrès précédent, notamment la Chambre de représentants qui était dirigée par Paul Ryan?
Oh, je crois que oui, je crois que oui. Ce sera un grand changement pour le mieux.
Les démocrates veulent... mener des investigations sur le président Trump.
Ça, c'est un autre paire de manches. Ça, c'est un autre paire de manches.
Si vous analysez les deux années qui restent pour le mandat du président Trump, est-ce que vous pensez qu'il aura la tâche facile?
Non, pas du tout, parce qu'il a les démocrates qui ont sauvé une chambre maintenant. Donc, il sera obligé de négocier. Maintenant, il n'a pas besoin de négocier, mais à partir de maintenant, ce sera assez difficile.
Il a, par contre, la majorité au Sénat. Est-ce que vous pensez que le Sénat est en train de l'aider pour aboutir à un compromis quelconque?
Oh, même les Républicains, maintenant, commencent à tourner contre lui parce qu'ils ne sont pas contents de lui. Donc, je crois qu'il y aura des problèmes avec son propre parti.
Voilà. Monsieur Viano, vous avez suivi Monsieur Cohen en commentaire là-dessus. Est-ce que vous partagez ces points de vue?
Je pense qu'il y aura des difficultés et même une crise politique majeure pendant cette année. Il y en aura de nombreux. Par exemple, rapidement, la commission des moyens de la Chambre va réclamer et publier le feuille d'impôt de Donald Trump, un sujet de grand intérêt parce qu'il pourrait avoir des répercussions sur les accusations de collusion avec la Russie. Derrière, il y aura de nombreuses commissions d'enquête sur toutes sortes de sujets, à commencer par les soupçons de collusion russe. Les démocrates possèdent désormais les moyens législatifs de combattre Donald Trump et ils ne vont pas s'en priver. On pense tout de suite à cette procédure de pré-destitution, d'impeachment, qui n'ira pas jusqu'à la destitution, car Donald Trump garde le contrôle du Sénat. Mais en tout cas, on peut s'attendre en cette année 2019 à ce que la crise politique devienne majeure, dans ma opinion, et à ce que l'impeachment soit peut-être déclenché. Naturellement, comme j'ai déjà dit...
C'est encore très tôt pour le dire.
OK.
Monsieur Viandon, nous avons un auditeur en ligne, Brahima Doumbia. Doumbia, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous.
Voilà, on parle de ce nouveau congrès ici aux États-Unis, le 116e, qui comprend une diversité historique.
Oui, effectivement.
Est-ce que vous pensez que vous suivez la politique américaine, n'est-ce pas?
Effectivement, je suis la politique américaine. Attends.
Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau congrès, vous? Je pense qu'il y a un problème de connexion avec notre auditeur Brahima Doumbia. Nous avons Tcherno qui est en ligne. Tcherno, bonsoir.
Oui, bonsoir, frère. Bonsoir à l'ensemble des auditeurs et des autres de l'Afrique. Mes nerfs et à l'ensemble de vos auditeurs.
Meilleurs vœux à vous aussi. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau congrès américain?
Bon, j'attends beaucoup de choses parce que, oui, la rentrée de certains issus de la minorité, c'est quelque chose de très salutaire parce que ça a permis de nombre de femmes très courageuses, très combattantes de participer au débat au Congrès. C'est quelque chose de salutaire. Donc, moi, je pense que vu que le président est issu des républicains, quand le Congrès est dominé par les démocrates, ça va maintenant faire les choses comme il faut parce que le débat va être très très chaud en permettant à les démocrates de s'imposer en faisant contre-pouvoir, comme on dit souvent, de permettre les choses pour que les choses passent normalement parce que le président Trump a manque d'expérience dans la gestion des choses d'État. Donc, Ce congrès va permettre maintenant des choses d'aller mieux en système démocrate. C'est quelque chose qui est très, très salutaire, étant encore qu'il y a une dame qui est à la tête de ce congrès, va beaucoup permettre aux autres.
Merci, Tcherno. Merci, merci, Tcherno, pour votre point de vue. Monsieur Viano, on parle de cette diversité qui est historique. Et Nancy Pelosi qui a dit qu'elle va tout faire pour protéger les Dreamers. Est-ce que vous pensez qu'elle va y arriver?
Oui, il y a vraiment une diversité très, très intéressante. Finalement, aux États-Unis, c'est plus représentant du pays qu'auparavant. Il y a, comme vous avez déjà dit, 102 femmes. Il y avait 87 avant. C'était un numéro plus grand. Après des Amérindiennes, après des musulmans, après des gays, lesbiennes. C'est-à-dire que c'est une congrès qui représente mieux la diversité des États-Unis dans un moment critique pour le pays parce que nous avons vu une tendance plus conservatrice de l'administration Trump qui essaie de renverser les lois approuvées avec le soutien de Barack Obama de ces minorités.
Et les Dreamers? La protection des Dreamers, monsieur Viano.
Si, la protection des... Pardon?
La protection des Dreamers. Nancy Pelosi a dit qu'elle va tout faire pour les protéger.
Oui, je suis sûr qu'elle va à le faire assez bien parce qu'elle a une très, très grande expérience. C'est ça ce qu'on ne peut pas oublier, que Trump, il devra batailler avec une opposante de très grande expérience. Une expérience politique de cette femme, il a 98 ans.
78 ans, oui.
est reconnu par tout le monde. Par exemple, elle a bataillé pour faire adopter l'Obamacare, la réforme de la sécurité sociale, a défendu le droit à l'avortement et le mariage pour le couple de même sexe et s'oppose naturellement, comme nous savons, au mur à la frontière
Merci.
Avec le Mexique.
Merci à Emilio Viano pour votre contribution dans cette émission. Et sur le shutdown, le président Donald Trump est en train de s'exprimer. Il dit que la rencontre qu'il a organisée a été productive. Il a annoncé un groupe de travail à la tête de son vice-président Mike Pence qui va continuer à travailler tout au long du week-end pour essayer de dégager un compromis entre démocrates et républicains dans l'intérêt de la sécurité des frontières et des États-Unis. Merci, c'était l'Amérique et vous. Eric Manelakiza vous souhaite une agréable soirée chez vous.